Alors, merci. Alors, finalement, ça marche à ce dos. Ça va être enregistré. Merci, merci. C'est vrai que... Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi, que Dieu vous bénisse. On va faire une lecture dans Romains 12, et au verset 3-5. Romains 12, versets 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse cette parole. Et je voudrais dire à ceux qui viennent sur Internet que nous avons prié avant, tout à l'heure, et nous avons chanté. C'est pas que je commence mes prédications sauvagement sans prier, mais... nous commençons toujours la prédication ainsi. Donc, le 27 juin, je vous ai parlé afin que nous comprenions tous comment la conscience révèle la vie. Vous vous rappelez? Comment la conscience révèle la vie? La vie humaine, mais aussi la vie divine, puisque maintenant, non seulement nous avons la vie humaine dans notre corps, c'est-à-dire notre esprit, mais l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, et maintenant nous avons conscience de la vie de Dieu en nous. Alors, je vous avais dit que j'allais continuer sur ce sujet, donc ce soir je vais reprendre ça, afin que nous comprenions ce qu'on entend au juste par la conscience du corps de Christ. La conscience du corps de Christ, avoir conscience du corps de Christ. Alors pour commencer, je pense que je vais devoir encore prêcher souvent sur ce sujet. Pour commencer, je vais prendre le point le plus important, celui de l'amour. Il y a un texte sacré qui s'avère être absolument merveilleux pour la contemplation de la vérité à ce sujet. C'est 1 Jean 3,14 qui dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous savons, nous avons conscience que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Pas parce qu'on a trouvé une doctrine qui correspond bien à notre entendement et à ces choses. Non, non. Parce que nous aimons les frères et sœurs. Tous ceux qui sont passés de la mort à la vie ont de l'amour les uns pour les autres. Tous ceux qui font partie du même corps spirituel s'aiment les uns les autres. Parce que cet amour découle de la vie et cet amour s'exprime spontanément. Moi, je voyage beaucoup et... C'est rigolo, on arrive dans des endroits et c'est des frères, ben tout de suite, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est des frères, c'est des sœurs, et puis, bon, on ne soupçonne pas le mal chez eux, on les aime tout de suite, et c'est magnifique. Alors que quand on est avec des gens du monde, on ne sait pas trop, voilà, bon, ils peuvent être charmants, puis des fois, on les aime aussi pour d'autres raisons, mais les frères et sœurs, c'est la vie qui est en nous qui correspond à la vie qui est dans l'autre. Mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un pourrait être considéré comme un disciple de Jésus-Christ si, après avoir affirmé qu'il est chrétien, on soit obligé continuellement, d'aimer pratiquement ses frères et sœurs? Est-ce qu'on pourrait dire qu'une telle personne est chrétienne si, après avoir lu la Bible, il disait « Bon !» Eh bien, je vais commencer à aimer les frères demain parce que c'est écrit là. Ça ferait bizarre, hein? Ça ferait bizarre. Alors, il nous faut savoir que quiconque est réellement né d'en haut, a donc la vie de Dieu en lui-même et il aime spontanément. Spontanément. Il aime spontanément tous les membres du corps de Christ sans qu'on soit obligé de le lui dire. Alors, de temps en temps, il faut lui rappeler, parce que bon, la vie, des fois, ça fait qu'on se chicane pour des babioles et des machins. Et puis alors, il peut arriver qu'il y ait de l'amertume, ou alors, et puis, alors, il y en a qui boudent, il y en a qui se mettent en colère, il y a toutes sortes de manifestations. Alors, on a besoin qu'on nous rappelle, voilà, que c'est nécessaire, n'est-ce pas, de se remettre. Mais mes frères et sœurs, qu'on lui rappelle ou non la conscience d'aimer les frères et sœurs, à cause des mauvaises expériences qu'il peut avoir dans l'Église, il se peut qu'il ait besoin qu'on lui rappelle, c'est vrai, souvent, c'est vrai peut-être, d'aimer les frères et sœurs, souvent peut-être c'est nécessaire de lui rappeler, mais ces rappels ne lui donnent rien qui ne soit pas déjà en lui. Ces exhortations, ces prédications, ces lectures, toutes ces choses vont lui, simplement, ce sera quelque chose pour réveiller la ferveur de ce qui est déjà présent en lui et qui a été malmené peut-être par des choses qui sont extérieures et tout ça. Mais c'est déjà en lui, c'est juste pour réveiller l'amour. Mes frères et sœurs, si l'amour de Dieu est présent dans une personne, l'amour des frères et sœurs est aussi présent dans cette personne. Impossible autrement. Impossible autrement. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, c'est normal qu'il n'y ait pas d'amour fraternel. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est écrit là. C'est aussi simple que ça. Nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière parce que nous aimons les frères, c'est tout. Rien ne se crée, rien ne se fabrique, on ne fabrique pas ça. C'est là, ça nous est donné quand la vie de Dieu vient en nous, on reçoit cet amour, Dieu est amour. Lorsqu'un croyant rencontre une autre personne qui est croyante aussi, qui appartient à Dieu, étrangement, mais naturellement, eh ben, il l'aime. Alors je disais, il y a longtemps, c'était une expression que j'avais, puis que je dis presque plus maintenant, mais c'est naturellement surnaturel. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le chrétien cette conscience intérieure qui s'exprime dans l'amour envers ceux qui sont de la même famille, qui ont Dieu pour Père Céleste. Alors je vais poser une question étrange à Francis. Francis, tu as un fils. Hein? Le jour où il est né, est-ce que tu l'aimais déjà? Bien sûr. J'ai eu une fille, et avant qu'elle vienne au monde, je me posais des questions au sujet de la façon, comment est-ce que j'allais devoir l'aimer, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, etc. Mais dès que je l'ai vue, mon cœur s'est épris d'elle tout à fait naturellement, j'avais plus de questions, c'était de l'amour, une affection immense, un amour immense qui s'est traduit en action, en éducation, en fessée aussi de temps en temps. Et toutes ces choses par amour, à cause de l'amour. Dès que je l'ai vu, je l'ai tout simplement aimé. Et puis voilà, c'est tout. Ça ne s'explique pas, ça ne se fabrique pas, ça ne se crée pas. On n'apprend pas ça dans les livres. L'amour humain découle d'une conscience intérieure. Nous n'avons pas besoin d'être enseignés extérieurement au sujet de comment aimer nos enfants. Pas besoin. De même, tous les enfants de Dieu qui sont rachetés par le sang de l'agneau, tous les enfants de Dieu qui reçoivent donc la vie de Dieu en eux, la Bible nous dit il faut se repentir, ensuite il faut recevoir sa vie, son esprit en nous, tous ceux qui reçoivent la vie de Dieu en eux, qui sont immergés dans le corps de Christ, c'est-à-dire immergés dans la communauté, dans son église, tous ceux qui sont immergés dans le corps de Christ ne peuvent pas s'empêcher d'être poussés de l'intérieur à aimer les autres, même si les autres des fois sont désagréables, ça n'enlève rien à l'amour. Quand j'étais en colère après ma fille, et que j'y fichais une fessée ou que je la grondais, ça ne veut pas dire que je l'aimais moins. L'amour est une conscience intérieure et si vous faites partie du même corps spirituel, vous avez naturellement ce genre de conscience, Alors, celui qui a discerné le corps de Christ et qui possède donc la connaissance de ce corps, il se sent très mal à l'intérieur de lui-même quand il fait quelque chose qui pourrait causer une division. Il se sent très mal quand il fait quelque chose ou dit quelque chose qui pourrait mettre la zizanie et séparer les enfants de Dieu. Parce que l'amour est naturel pour le corps de Christ et la division est tout à fait le contraire. C'est quelque chose, la division, c'est contre la nature du corps de Christ. Alors, c'est comme par exemple le cas de nos mains. Il y a une très belle chanson qui dit « Demain, la 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 », vous connaissez, puis ça se termine. Et demain, ça peut claquer la porte, ça peut faire tout ce que vous voulez, mais demain, ça se joint en priant. Ça se termine comme ça la chanson. Bah. Alors voilà, c'est la même chose que pour nos deux mains. Peu importe le nombre de raisons pour lesquelles nos mains pourraient se soulever, une de nos mains pourrait se soulever contre l'autre, peu importe le nombre de raisons, leur relation, ça ne peut pas être rompue. La division, c'est tout simplement impensable, c'est impossible, parce qu'elles font partie du même corps, il y a la même vie. Alors Michel, tu nous racontes des histoires, c'est joli, mais maintenant on va regarder dans ton passé. Comment ça se fait alors que tu es sorti des dénominations chrétiennes? Ah, bonne question. C'est une division, tu es sorti. Tu n'aurais pas dû sortir, il n'y a aucune raison qui fait que tu aurais dû sortir. Mes frères et sœurs, ce n'était pas une division. Parce que je travaille toujours avec ceux qui reconnaissent que je suis un enfant de Dieu. Parce que je n'ai pas quitté pour recréer quelque chose exactement semblable à ce que j'ai quitté. Et troisièmement, parce que ce n'était pas pour satisfaire mon désir d'être supérieur ou de choses. C'était pour accomplir Apocalypse 3, 20. Et Apocalypse 18, 14, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » C'était afin de pouvoir rentrer librement dans le rétablissement de toutes choses. C'est ce que notre frère, notre prophète, nous a dit de faire. C'était dans l'esprit, et pourtant on ne connaissait pas encore le prophète, mais c'était dans l'esprit de ce que le prophète disait. Comme Luther est sorti des catholiques apostats, comme Wesley est sorti à quitter les protestants ronronnants, comme les baptistes sont sortis de tout cela et comme Branham est sorti du pentecôtisme. Cependant, mes frères et sœurs, bien que ceux que j'ai quittés ne suivent toujours pas la colonne, ne marchent toujours pas derrière la colonne qui avance, eh bien, je les aime toujours et je discerne le corps de Christ. Je me rappelle qu'au début, quand je partais en Afrique, quelques-uns me disaient « Mais Michel, toi qui nous dis qu'il faut sortir du milieu d'eux, tu es tout le temps avec eux. Tu vas prêcher là-bas, tu restes avec eux pendant des semaines et des semaines et des semaines, tu prêches pour eux, tu remplis leur église avec tous les convertis que tu emmènes à Dieu. Comment ça se fait? C'est un non-sens. » Non, ce n'est pas un non-sens, parce que je discerne le corps de Christ. Rappelez-vous de ça. Ça paraît un non-sens, mais ça n'est pas un non-sens. Je travaille avec eux, comme nous dit la Bible, sur les points où on est d'accord. Et là où ça ne va pas, bon, ben, je laisse tomber. Par exemple, au sujet du baptême des morts, ben, je ne vais pas prêcher ça dans une convention pastorale parce que ça ne va pas, ça ne passerait pas. Et puis, ça ruinerait mon ministère d'évangélisation. D'accord? Bon, alors je ne suis pas là pour me justifier, pour dire voilà pourquoi je suis sorti. C'est juste pour vous dire qu'un enfant de Dieu aime naturellement les autres enfants de Dieu, même si ceux-ci ne sont pas parfaits, même si ceux-ci dorment ou ne sont pas en train de suivre réellement la colonne de feu, même, il les aime quand même. Vous voyez? Le principe de vie, ce n'est pas le moi, le principe de vie, c'est le corps de Christ. Le rôle du porte-parole est délicat plus que le rôle d'une brebis. Parce que le porte-parole, il est devant. Moi, je me rappelle Camélia, cette sœur Camélia, elle nous en a appris des choses quand on y pense. Je disais, comment ça se fait, ma mère, que tu es tout le temps malade comme ça? Elle dit, parce que je suis au front, mon frère, mon fils. Elle me disait, mon fils, parce que je suis au front, mon fils. Si je n'étais pas au front, ben, le diable me laisserait tranquille. Mais étant donné que je suis au front, ben, c'est moi qui prends tous les coups. Et elle avait raison. Si vous êtes un berger, eh ben, c'est vous qui prenez les coups. Le rôle du porte-parole est délicat parce que c'est le berger, la position du berger, il sait qu'il est berger. Certaines brebis le savent, mais d'autres disent bah, « c'est une brebis comme nous. De quel droit ceci, de quel droit cela ?» Alors ça fait des problèmes. Très souvent je parle et puis ça ne rentre pas. Alors je reparle, je redis, ça rentre pas. Ça rentre pas. Alors des fois ça rentre pas parce qu'il y a une mauvaise volonté, ou des fois ça rentre pas parce que on a tellement de trucs, on n'arrive pas, bon, on n'arrive pas à capter. Ça rentre pas pour toutes sortes de raisons. Et puis alors, moi ça me travaille. Je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va pas? Est-ce que j'ai mal expliqué? Est-ce que ce que je dis est faux? Etc. Toutes les idées me passent par la tête. Et je me rappelle au sujet, par exemple, je vais vous donner un exemple. De la prière. Je suis ravi de notre réunion de prière de mercredi matin. Vous savez que j'ai perdu 36% d'audition cet hiver à cause de deux otites que j'ai négligées, je n'ai pas bien soignées. Mais même sans ça, déjà avant, j'entendais rien du tout dans vos prières. C'était du marmonnage. Et je vous le disais, mais ça ne changeait rien. Je vous le disais, et ça ne changeait rien. Et à la fin, j'ai dit, je m'en fous. Je lis ma Bible pendant ce temps. De toute façon, je ne comprends rien. Autant lire ma Bible. Et j'étais amer. Il y a une différence entre être amer et ne pas pardonner le fait que vous ne voulez pas obéir, que vous ne voulez pas comprendre. Mais être amer, c'est normal pour un berger. Quand on ne l'écoute pas, quand on ne fait pas. Et puis, mercredi passé, comme disait Sandy Shaw, ceux qui ont connu les vieux, pour vous que ça dure. J'ai trouvé ça très bien. C'était magnifique. Mais écoutez bien maintenant, je vais redire ce que je vous ai déjà dit il y a quelque temps en arrière. Le corps de chaque membre est là, on est les uns à côté des autres, et ça c'est dans toutes les églises. Dans les réunions de prière, les membres sont là, les uns à côté des autres, mais il se peut que la conscience des uns et des autres ne dépasse pas leurs propres limites personnelles. C'est pourquoi, donc, depuis des mois, je vous dis de prier à haute et intelligible voix, pas simplement pour que j'entende votre douce voix, mais pour qu'on puisse dire Amen à votre prière. Pour qu'on puisse être avec vous dans votre prière. Si on n'entend pas ce que vous dites, on ne peut pas être avec vous et on n'est pas en communion, alors autant prier chez soi. À quoi bon venir se réunir? Si on n'entend pas, il n'y a pas de communication si on n'entend pas. Quand un membre souffre, nous dit la Bible, oublions le mot souffrir, mettons prions. Quand un membre prie, chaque membre prie. Dans une réunion de prière. Quand un membre prie, tous les ans, les membres prient, on communie avec sa prière. De même, à l'inverse. Si vous êtes dans une réunion de prière et que vous avez balancé votre prière et qu'après vous n'écoutez plus ce que les autres disent, même s'ils parlent à haute et intelligible voix, c'est pas bien. Vous devez écouter la prière des autres. Sinon, il n'y a pas de réponse intérieure à la prière d'autrui. Alors vous voyez, ces choses, elles sont en vous, vous le savez, mais ça s'est endormi. Alors il faut le répéter, il faut le redire pour que on ait quelque chose dans la chair qui comprenne qu'est-ce que c'est. Dans la chair, c'est dans la compréhension intellectuelle de la chose. Il faut que de temps en temps, on nous rappelle, voilà, écoute voir, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Sinon, si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas dire Amen à la prière. Il faut donc parler à haute voix pour être entendu et il faut écouter afin de pouvoir être en communion avec les autres. Votre conscience, elle doit être unie à la conscience des autres. Sinon, il y a division, c'est-à-dire. Votre conscience est séparée de la conscience des autres. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Nous sommes un corps et nous nous soucions du fardeau de prière des uns et des autres. En priant, en marmonnant ou en n'écoutant pas la prière des autres, on fait quoi? On fait prévaloir l'individualisme et non pas les principes du corps. Ce n'est pas simplement pour avoir l'air réveillé qu'on prie à haute et intelligible voix. C'est parce que la prière, toute spirituelle qu'elle est, elle doit passer par la chair. On doit l'entendre, la comprendre, afin de pouvoir dire Amen, c'est-à-dire être unis, avoir cette conscience d'être avec celui qui prie, avec celle qui prie. Alors, ni celui qui marmonne inaudiblement, ni celui qui n'écoute pas, ne discerne le corps de Christ. Alors, vous pouvez prendre la Sainte Cène. Mais vous n'avez pas discerné le corps de Christ dans la réunion de prière. S'il n'y a pas ces deux choses, il n'y a pas de collaboration en unité avec Dieu. De même, quand il y a la prédication qui sort, si vous n'écoutez pas, il y en a qui parmi nous ont dit, de toute façon, il peut toujours parler, je n'écoute pas. Eh bien, si vous n'écoutez pas, c'est que vous ne discernez pas le corps de Christ. Et si vous ne discernez pas le corps de Christ et que vous prenez la Sainte Seine, c'est grave aussi. Heureusement que Dieu est miséricordieux, hein. De même, quand vous ne vous souciez pas du programme de la journée, vous ne discernez pas le corps de Christ, etc., etc., etc. C'est la plaie de l'individualisme. Alors, il est bon de se mêler aux autres, de ne pas être individualiste, de se mêler aux frères et sœurs, d'être en communion avec eux d'une façon réelle, même si on n'a pas les mêmes affinités, même si on n'a pas la même éducation, parce que ne pas le faire, c'est pratiquer le principe de l'individualisme et non le principe du corps de Christ. Mais d'un autre côté, ne pas se mêler aux autres sous prétexte qu'ils ont formé des clans ou des petits cercles, ce n'est pas non plus discerner le corps de Christ. Mêlez-vous aux autres. C'est à chacun de nous de le faire et non pas d'attendre que ce soit les autres. Personne ne vous empêche. Personne ne vous empêche de venir dans les clans qui se sont formés. Parce qu'il y a des clans qui se forment, parce que spontanément, on aime les uns et les autres. Mais si vous vous tenez à l'écart, ce n'est pas de notre faute. Mêlez-vous, imposez-vous. Si parfois, donc quand même, il faut avouer, il est bon, il y a un temps pour toute chose, il est bon de temps en temps de laisser les autres faire leur boulot. C'est-à-dire, par exemple, quand la Michou fait son travail à la lingerie, laissez-la faire son boulot, n'allez pas derrière elle pour lui parler de tous vos problèmes et de tous vos machins. Il y a des temps, il y a un temps pour tout. Hein. Par exemple, je crois que je ne ferai pas de... Je ne vais pas me mettre Stéphane à dos si je dis la vérité à ce sujet-là, mais au début de sa conversion, il venait tous les jours dans mon bureau. Hein, il venait, et puis alors, il parlait, et puis après, puis de temps en temps même, il s'endormait sur le canapé et tout. Tu te rappelles, Stéphane? Bon. Alors, un jour, j'ai dû lui dire, écoute, Stéphane, tous les jours, mais sauf le vendredi et le samedi, parce que c'est les moments où je prépare ma prédication, et même si tu dors, ça me dérange, ça me gêne, j'ai besoin d'être tout seul avec mon Dieu, je peux pas préparer ma prédication si t'es là, ça va pas, je me sens pas à l'aise, je peux pas. Et puis, mais il a très bien compris, n'est-ce pas, Stéphane? Tu as très bien compris. Et puis, il y a un moment pour toute chose. Mais il n'y a rien qui vous interdit de vous mêler aux autres. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Et surtout, ne vous plaignez pas qu'il y ait des clans dans l'église, que ce soit ici ou que ce soit dans les églises des frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Si vous dites qu'il y a des clans dans votre église, mais mêlez-vous à ces clans. Faites tout pour séduire ces clans. Par exemple, ici en France, on a un très bon truc pour séduire les clans. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est que vous arrivez chez la personne qui a réuni son petit clan avec une bonne bouteille. Ça marche à tous les coups. On va toujours vous recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Faites un effort vous-même pour aller vers l'autre. N'attendez pas que ce soit toujours les autres qui viennent vous chercher, etc., etc. En tout cas, dans mon clan, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Mais ce que je vous dis là, vous le savez en vous-même. Vous le savez en vous-même. Vous savez également que ce n'est pas un jugement que je porte. C'est une exhortation que je vous donne en tant que berger. C'est vrai que je ressemble étrangement à une brebis, mais je suis quand même le berger et j'ai la charge de vous dire ces choses. Et je vous l'ai dit avec beaucoup plus de légèreté qu'il y a quelques semaines en arrière, parce que beaucoup de choses se sont produites dans notre communauté et je vois que maintenant, vous êtes avides d'entendre et pour pouvoir pratiquer ces choses et ça me réjouit. Alors, c'est le rôle d'un berger qui est aussi une brebis. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et si vous aimez ce que je vous enseigne, venez me le dire. Vous avez vu Francis, il nous prépare un petit plat. Mais Francis, il ne peut pas tricher. Il faut qu'il dise, alors c'est bon. Oui ou non, il est comme ça. Il veut être sûr qu'on est content. Parce que si on dit rien, ben, il va dire... Peut-être c'est pas bon, ils disent rien. Alors maintenant j'ai pris le truc, j'ai dit toujours, c'est super, c'est très bon. Parce que sinon il va me demander, de toute façon je vais devoir le dire. Alors, si c'est pas bon aussi, j'ai dit, mais enfin bon, ça va, c'est une autre chose, ça c'est rare quand même. Mais il faut communiquer, il faut dire, ça fait plaisir, je vous assure que moi ça me fait plaisir. Je me rappelle à l'école biblique, on nous enseignait, quand vous avez un chrétien qui, après votre prédication, vient vous dire, ah, ce que vous avez dit m'a fait beaucoup de bien, ça m'a parlé. Dites-lui, répondez-lui, je sais, le diable m'a déjà dit que ça lui a fait du bien. Mais c'est horrible! C'est horrible de dire des choses comme ça. C'est tout le contraire, au contraire. Si ce que je vous ai dit vous a fait du bien, mais moi ça me réjouit, puis ça me donne envie de continuer. Mais si vous dites rien du tout, si on n'en parle jamais, si vous posez pas de questions, si, mais ça, c'est ça, à la fin ça me lasse, et puis c'est difficile. Alors si vous avez aimé ce que j'ai dit c'est l'autre jour et puis ce soir, c'est une suite. Il y aura une suite. Sinon, ben je vous prêcherai sur Bartimée. Mais je continuerai si vous me dites que ça vous a plu, si vous me dites que ça vous parle, si vous me dites que vous avez le sentiment que ça élève le corps de Christ, que ça nous donne des directions et que ça réveille quelque chose qui est en vous, que vous le savez, mais que c'est bon de, comme disait Renaud, c'est une aimable répétition, mais ça fait du bien parce que c'est juste. Alors je continuerai dans cette lignée dimanche matin, ce qui, je le crois, vous sera d'un grand avantage pour tout le corps de Christ. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider et de m'aider à avoir une bonne communion fraternelle et que toutes les choses se passent bien. Seigneur Jésus, tu vois que nous avons des blessures, nous avons des plaies, mais nous mettons de l'huile dessus. Nous mettons de l'huile en priant, nous mettons de l'huile en parlant en langue, nous mettons de l'huile en nous parlant les uns les autres. Et Seigneur Jésus, je crois que cette huile va permettre que ces plaies puissent être refermées et qu'elles cicatrisent et qu'ainsi nous puissions avoir simplement une cicatrice, mais qu'on oublie toutes ces douleurs et tous les problèmes que certains peuvent avoir. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, Amen. Amen.